si c'était les vôtres. Participer aux réunions de l'Assemblée. Georges Muller, fondateur des célèbres orphelinats de Bristol, disait « Bien que dans l'immédiate, il puisse sembler qu'on ne retire pas de profit de notre assistance aux réunions, c'est néanmoins dans le conseil de Dieu un moyen de nous garder du mal. » Alors, quel cercle voulons-nous alimenter ? Le vertueux, on se rassemble, on s'aime, on s'encourage, on combat, on s'édifie, on se rassemble avec plaisir, etc. Ou le cercle vicieux, on se décourage, on ne vient plus aux réunions, on décourage ceux qui viennent, jusqu'à l'extinction de l'assemblée locale. Ça, c'est un choix. C'est un choix et il faut que nous le fassions. Dans l'Ancien Testament, il y a ce verset en Deutéronome 30, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et vous savez que Dieu ne dit pas « Oh, choisis ce que tu veux. » Il dit non, « Choisis la vie, afin que tu vives. » Il faut aussi s'occuper de restauration. Ésaïe 58, tu relèves, c'est un peu hors du contexte, mais je crois qu'on peut l'appliquer ainsi. Tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération et on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Et cette image est jolie. Vous voyez, quelqu'un qui s'occupe, bien sûr, l'église n'est pas le bâtiment, j'espère que tout le monde l'a compris, mais c'est un symbole. Un peu de cœur, apporter une fleur, nettoyer une vitre, tout cela fait partie de la vie de l'Église, et puis en plus, réparer ou consoler un cœur brisé, tout cela fait partie du service de l'Église, restaurer ce qui peut-être est quelque part en ruine. Il faut qu'une Église soit établie sur la parole de Dieu. Éphésiens 2 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Là aussi, l'image est symbolique. Vous avez une église qui branle et on la cale avec une Bible qui nous parle de Jésus-Christ. Une église fondée sur Jésus-Christ. Nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3. Donc, est-ce que notre Église est fondée sur la parole de Dieu? Non pas simplement sur ce que nous pensons que la parole de Dieu dit, mais sur la parole de Dieu, ce qu'elle dit réellement. Et pour cela, il faut que nous ayons une bonne approche de la parole de Dieu. Il faut que nous ayons des bonnes réunions. C'est-à-dire que les réunions d'édification doivent édifier, doivent construire. Et sinon, il faut changer la forme, il faut changer peut-être le fond, mais il faut changer quelque chose. On ne doit pas sortir, sauf cas exceptionnel, d'une réunion d'édification en étant démoli. On ne doit pas sortir d'une réunion d'édification en étant totalement découragé, si ce n'est quand l'Esprit de Dieu peut toucher notre cœur ou notre conscience quant à un péché. Alors, quelle est la place réelle de la parole de Dieu dans l'Église? C'est un point important et pour cela j'ai fait un petit croquis. Vous voyez la Bible en haut, ça c'est moi. Et normalement, je reçois la lumière de la parole de Dieu directement. Et puis il se peut que quelqu'un d'autre, ou dans ce cas-là, des commentaires viennent s'interposer entre la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on croit des fois obéir à la parole de Dieu, alors qu'on obéit aux commentaires. Il faut faire attention. Tous les commentaires, bien sûr, ne sont pas mauvais, mais d'un autre côté, tous les commentaires ne sont pas bons. Et ce que nous devons faire, c'est établir l'Église sur la parole de Dieu. Lorsque je rencontre des témoins de Jéhovah, très rarement, parce que je ne sais pas pourquoi, ils ne m'aiment pas. Mais quand je les rencontre, je commence à dire, bon, pour vous, la Bible est la parole de Dieu. Oui, monsieur. Et vous vous appuyez exclusivement sur la Bible, n'est-ce pas? Exactement, monsieur. Et au bout d'un moment, ne sachant plus répondre, ils prennent un livre qui s'appelait, en tout cas, « Comment raisonner à partir des Écritures ?» Et ils cherchent quelque chose. J'ai dit « Excusez-moi, c'est une autre traduction ?» Il fait semblant. « Non, mais c'est un livre, ça. On m'a dit que vous appuyez sur, uniquement sur la parole de Dieu. » Ils me disent « C'est pareil. » Ah oui, et oui, c'est ça le problème. Les commentaires, pour vous, c'est pareil que la parole de Dieu. Mais pour moi, non. Vous remettez le livre dans la poche et on reste uniquement avec la Bible. Ouais. Donc, faisons attention nous-mêmes. Nous n'avons pas des commentaires délétères comme les témoins de Jéhovah. Mais il faut que nous gardions le contact direct avec la parole de Dieu. Les gens, les frères ou sœurs qui ont pu écrire des commentaires ont eu leur lumière, la lumière que Dieu leur a accordée sur certains passages. Elle est précieuse. Il ne faut pas la rejeter. Il faut en profiter, mais de façon incidente. Il ne faut pas que cela cache l'enseignement direct de la parole de Dieu, qui doit être notre seule référence. Agir, c'est évangéliser. Paul dit aux Philippiens, « Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous, dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous, avec joie à cause de la part que vous prenez dans l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que c'est une lettre adressée à l'Assemblée, et pas à un individu. On a entendu couramment, l'Assemblée n'évangélise pas. Ça s'appelle en bon français un sophisme, c'est-à-dire quelque chose qui a une apparence de vérité, mais qui est une erreur, tout simplement. Si tous les membres de l'Assemblée évangélisent, l'Assemblée évangélise, c'est aussi simple que ça. Agir, c'est aussi encourager. 1 Thessaloniciens 5,13 nous dit « Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous, prenons garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. » Agir, c'est aussi s'occuper de ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien. Rappelons-nous ce verset un peu sorti du contexte, mais qu'on ne peut pas mettre de côté d'un revers de main. Le roi dira « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Alors les justes lui répondront disant « Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri ?» Et le roi répondant leur dira « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Troisième point, comment aimer l'Église? Aimer l'Église, c'est aussi avoir du respect, c'est respecter. Cela sous-entend que l'on reconnaît l'autorité spirituelle. La parole de Dieu nous dit qu'on doit obéir à nos conducteurs, qu'on doit être soumis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veillent pour vos âmes comme en ayant à rendre compte. Que Dieu veuille susciter parmi nous des conducteurs qui veillent sur les âmes, c'est ça le surveillant, l'épiscopos, le surveillant, l'ancien, il réalise qu'il a une responsabilité devant Dieu. Alors, de telles personnes qui sont à la tête parce qu'elles sont aux pieds des membres, celles-ci sont des conducteurs. Nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous, non pas parce qu'ils ont joué des coudes pour l'être, mais parce qu'ils sont à la tête parmi vous dans le Seigneur. Une recommandation du Seigneur qui vous avertisse. Il est plus facile de dire « laissons courir » que d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Écoute, mon frère, ma sœur, je ne sais pas, est-ce que tu ne crois pas que tu te trompes dans tel domaine ?» etc. C'est plus simple de laisser courir, chacun a ses responsabilités personnelles, certes, mais il y a aussi des responsabilités de l'un par rapport à l'autre dans l'Église. Que les anciens qui président, que les anciens qui président dûment, soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. J'ai eu un peu de mal des fois avec ce passage en disant, mais pff, double honneur, qu'est-ce que ça veut dire? On fait deux fois la courbette devant, ou elle passe à faire deux baisons, on en fait quatre. Et un frère missionnaire, Pierre-Étienne Fister, m'a un peu éclairé en Afrique, au Congo, où il a travaillé, au Zaïre, jadis. Il me disait, bien voilà, quand un serviteur passe, mettons, on lui donne en partant une poule. Et quand c'est un serviteur reconnu, qui travaille dans la parole, etc., on donne deux poules. Il dit, c'est ça le double honneur. Et il est vrai, on arrive à le trouver dans les commentaires, que c'est en relation quand même avec une légèrement, ce n'est pas que cela, mais avec une rémunération, regardez le contexte. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Donc il y a question d'honneur, il y a question de reconnaissance matérielle, ça va jusque-là, et ça on ne le dit pas souvent, et bien évidemment, il n'y a pas d'appel du pied quelconque, c'est simplement se placer devant la parole de Dieu. Respecter la hiérarchie des âges. Job nous dit, chez les vieillards est la sagesse, dans beaucoup de jours, l'intelligence. Proverbe 16, les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Tout court, non. S'ils se trouvent dans la voie de la justice. Honore les veuves, 1 Timothée 5, là aussi, qui sont véritablement veuves. Lévitique 19, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Et encore Éphésiens 6, honore ton père et ta mère. Et enfin Romains 13, rendez à tout ce qui leur est dû, à qui l'honneur, l'honneur. Vous savez que je viens d'une ville, Marseille. Quand j'étais jeune, naturellement, quand il y a un vieillard rentré, une personne avec un handicap, une canne, il ne venait pas à l'idée d'un enfant de rester assis. Les temps ont bien changé, je vous certifie. Quand maintenant une personne âgée rentre, elle le cherche un peu, vous avez peut-être des jeunes qui ont mis les pieds sur deux bancs, qui sont là, qui chalutent, et la personne se cramponne comme ça parce qu'elle n'ose pas demander quelque chose de peur de recevoir un coup de poing. On en est là. Que dans l'Assemblée, on rende à qui l'honneur, l'honneur. Que ceux qui ont des enfants ici apprennent à leurs enfants à dire bonjour aux personnes âgées en premier, et qu'ils fassent le compte. T'as dit bonjour. C'est vrai que, bon, ils peuvent prendre 5 minutes de détente, mais néanmoins, ça marchera selon l'enseignement qu'on donne. Ce n'est pas aux vieillards de réclamer, quoique quand il s'agit de mes petits-enfants, qui ne viennent pas me dire bonjour, bon, il n'y a rien de gravissime, mais je leur fais systématiquement la remarque. Alors j'ai dit, mais je croyais que tu n'étais pas là. Tu n'es pas venu me dire bonjour. Bon, voilà. On éduque nos enfants, on éduque nos petits-enfants. Respecter la hiérarchie des âges. Reconnaître le principe biblique de soumission. Ça, c'est un thème qui donne des boutons. Pourtant, Jésus est soumis à Dieu. L'homme doit être soumis à Jésus. La femme doit être soumise à son mari. L'assemblée doit être soumise au Christ. Les enfants doivent être soumis aux parents. Les citoyens soumis aux autorités. Et même les autorités et puissances doivent être soumises au Christ. C'est incontestable. Il y a des versets bibliques qui appuient tout cela. Il y a ce principe de soumission. Tous égaux en tant qu'êtres humains, hommes, femmes, mais tout le monde est bien d'accord. Mais néanmoins, il y a cet ordre donné par Dieu et on ne peut pas le renverser. J'aime bien, ça ne me semble pas théologiquement très juste, ce que disait un cher frère que vous avez connu pour la plupart, il s'agissait d'André Richir. La femme soumise, c'est la femme qui se met sous la protection de son mari. C'est une belle image. Théologiquement parlant, je ne sais pas si c'est très juste. Mais enfin, c'est comme ça. Respecter l'autre et lui offrir un espace de vie. Pour ceux qui ne verraient pas le commentaire, il y a marqué « Chérie, pourquoi donc te sens-tu aussi dévalorisé ?» C'est un symbole, mais sans tomber dans le péché du féminisme. Je dis bien le péché du féminisme. Il y a peut-être la matière à réflexion. Nous vivons au XXIe siècle et non pas 10 siècles avant Jésus-Christ. La société a changé. Nous devons tenir compte de cette évolution. Je ne vous ai pas dit qu'elle doit vous plaire. J'ai dit qu'on doit en tenir compte, c'est tout. Et donc il faut être ouvert de manière que, de nos jours en tout cas, la femme est un espace de vie convenable dans lequel elle puisse s'épanouir et être heureuse. C'est un devoir de l'offrir. Le cadre, c'est à déterminer, mais il faut y penser. Sinon, le décalage est tel avec la société qu'il y a rupture. La femme, ne l'oublions pas, est la gloire de l'homme, selon 1 Corinthiens 11, verset 7. Respecter l'ordre dans la maison de Dieu. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des règles, si vous passez l'expression et si vous comprenez le sens, il y a des règles de jeu, il y a des cadres qui sont fixés. Et je ne sais pas où c'est que je le disais, mais d'une étonnante façon, la liberté dans la Bible s'exerce toujours dans un cadre. La liberté absolue, sans responsabilité, s'appelle la souveraineté. Or, Dieu seul possède la souveraineté. Tous les autres agissent dans un cadre et ont des comptes à rendre. C'est l'étymologie du terme responsable, répondere, qui répond d'eux. On doit répondre de ce qu'on fait. J'anticipais, voilà, se saluer fraternellement. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour, 1 Pierre 5. Et Matthieu dira, si vous saluez vos frères, c'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu, si vous saluez vos frères, ou on va extrapoler, si vous saluez seulement les frères et sœurs qui vous plaisent dans l'assemblée, que faites-vous de plus que les gens des nations ? Enfin, tout le monde sait embrasser un être cher. Tout le monde. C'est-à-dire que nous devons nous appliquer à garder le contact avec des frères ou sœurs acariâtres, difficiles. On ne peut pas les laisser au bord du chemin. On peut les aider, peut-être, mais on doit aussi leur montrer notre amour. Respecter, c'est aussi reconnaître, encourager tous les services, tous les gestes d'amour dans l'Église. Alors là, je ne vous donne pas une réponse publique, mais est-ce que vous avez dit une fois dans votre vie merci au frère ou à la sœur qui ouvre et qui ferme le local? Si vous ne l'avez pas fait, vous voulez bien prendre note pour le faire un de ces prochains dimanches. Est-ce que vous avez pensé à remercier là où les personnes qui nettoient et qui s'occupent de l'entretien du local? Ceux qui apportent le pain et le vin pour la scène. Ça paraît rien jusqu'au jour où le service vous tombe dessus. Vous verrez que c'est un peu plus lourd. Les collations, ça ne vient pas tout seul. La vaisselle ne s'est jamais faite toute seule. La garderie d'enfants. Je n'ai pas mis l'école du dimanche, bien sûr. La tenue des comptes, c'est tout à fait normal. Mais non, c'est pas normal. C'est du travail, c'est une responsabilité. Dire merci, X ou Y, de tenir la comptabilité, de faire tout ce travail. Tu sais, je t'en suis reconnaissant. Et le frère ou la sœur vont se sentir encouragés. Dire que ça fait 10 ans et qu'on ne me l'avait jamais dit. Hein ? L'organisation des rencontres, etc. Être reconnaissant. Alors là, je prêche pour ma paroisse. Avez-vous déjà remercié pour un message qui vous a fait du bien? Alors, ce n'est pas la peine ce soir de tous venir me dire merci. Mais sachez quand même que toute personne qui travaille dans l'enseignement, vous avez vu tout à l'heure, il nous a dit que ceux qui travaillent dans l'enseignement, ils sont dignes d'un double honneur. Ça veut dire que le vrai travail d'enseignement est un authentique travail qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'abnégation. À la place d'aller se promener, on reste à la maison pour préparer quelque chose, pour donner à manger à l'église. Et si on fait une comparaison, c'est la maîtresse de maison qui, lors d'un après-midi, alors que tout le monde, il fait beau, bien, on va tous faire une promenade, discrètement, oh, je reste à la maison. Vous savez ce que ça veut dire, bien souvent? Je reste parce que ce soir, il y a le repas, et je vais préparer le repas. Elle renonce à la promenade pour le repas. D'autres renoncent à leur promenade, à leur loisir, pour vous apporter de la nourriture en assemblée. Est-ce que vous avez pensé, et je dis ça pas pour moi, mais pour l'église locale, à dire merci? On peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné. Moi, j'ai quelques années qui sont derrière et je marche contre vents et tempêtes. Mais on peut décourager un jeune qui va dire cinq paroles et on fera peser un silence lourd sur lui qui le découragera et le mutilera pour la vie. Attention à cela. Église, je t'aime, non, je ne veux pas t'abandonner. Et je vous propose de vous lever pour bouger un peu et pour chanter ce cantique. Je pense que plusieurs le connaissent. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit rends-moi semblable à toi. Et je vais vous donner maintenant deux nouvelles raisons d'aimer l'Église, en considérant tour à tour les atouts de l'Église et l'espérance de l'Église. Tout d'abord, les atouts de l'Église, j'aurais pu mettre les chances ou les ressources de l'Église. Et on va commencer par un verset que je l'ai qualifié de « verset en or ». Il se trouve dans Agé, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, « qui est de reste parmi vous, dit le prophète, qui ait vu cette maison, il s'agit du temple de l'Éternel, dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez fort, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Sois fort, soyez fort. C'est comme si chacun de vous ici présent était interpellé. Sois fort, toi. Soyons forts tous. Mais comment faire? Comme Gédéon, peut-être, nous pouvons dire, nous sommes le plus petit de la maison de notre père, ça ne va pas. Non. Si Dieu nous dit de travailler, alors travaillons. Si Dieu nous dit que nous sommes forts, sous-entendu en lui et dans sa communion, c'est que nous sommes forts. Et il leur donne les ressources, un, sa présence, je suis avec vous. Et qui ne connaît cette promesse de notre Seigneur, cette double promesse? D'abord pour l'Église, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, et encore en quittant les siens à la fin de Matthieu, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Et est-ce que nous n'avons rien? La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte. Bon, pour nous, la parole, nous savons ce qu'elle est. Et Paul dira aux Thessaloniciens, vous n'avez pas reçu la parole des hommes, mais ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous l'avons. Et mon esprit, baptisés tous d'un seul esprit pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Alors avec ça, vous faites la somme et vous mettez, ne craignez pas. Point de crainte, de l'assurance, un désir de travailler, parce que le Seigneur est avec nous. Nous avons sa parole, nous avons son esprit. Que nous faudra-t-il de plus? Nous avons un Dieu vivant. Les Thessaloniciens avaient abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà des idoles de jadis, Diane des Éphésiens, et plus ancienne encore, le Baal des Cananéens. L'Église est appelée l'Église du Dieu vivant, pas du